Bon, la situation de l'arabe est assez complexe. Je vais essayer de mon mieux de présenter le tableau panoramique. Toutes les variétés de l'arabe, qu'est-ce qu'il en est, quels sont les enjeux quand on apprend une langue étrangère avec ses locuteurs variant de l'arabe. Alors, l'arabe, c'est une langue de la famille sémitique, une branche, une grande composante de la grande famille afro-asiatique. Et c'est une langue très ancienne. Donc, la famille sémitique est une famille très ancienne. Donc, les premières inscriptions écrites remontent à 7000 ans avant Jésus-Christ. L'arabe est un peu plus récent que ça, mais des milliers avant Jésus-Christ aussi. L'appellation est un peu... on peut accuser cette appellation d'une appellation politique. Ça remonte au XVIIIe siècle et c'est par référence à Shem ou Sam, un des fils de Noé dans la Genèse, dans le livre de la Genèse de la Bible. L'arabe dans cette famille sémitique est la plus grande de point de vue quantitatif, c'est-à-dire c'est là où il y a plus de locuteurs. Donc on estime maintenant 300 millions de locuteurs d'arabe. Et c'est une langue officielle des Nations Unies, vous le savez, ce n'est pas un secret, et parmi les 10 langues les plus parlées dans le monde. Où on parle l'arabe ? Donc, comme vous voyez, c'est au sud de la Méditerranée, dans le monde arabe, qui va de l'océan, du Maroc, jusqu'aux frontières du golfe arabo-persan, arabe-persique, l'Iran, donc avec 4 variétés. Donc, il y a le clan du Golfe, il y a le clan du Levant, c'est-à-dire Palestine, la Syrie, le Liban, la Jordanie. Et il y a l'Égypte et il y a le Maghreb. Il y a la Corne africaine aussi. Mais l'arabe aussi est une langue minoritaire dans les alentours, c'est-à-dire en Turquie, on peut avoir des variétés mineures à Antioche. Et si vous voulez écouter l'arabe d'Antioche, il faut voir dans les épiceries de Paris. Il y a beaucoup d'Antioche qui parlent l'arabe syrien de la Turquie, à Belleville par exemple. Il y a l'arabe de l'Iran aussi, donc il y a des arabophones en Iran. Il y a l'arabe dans l'Afrique aussi, subsaharienne, comme à Tchad par exemple. Et il y a l'arabe qui est parlé dans la diaspora en Amérique latine surtout, parce qu'il y avait une grande immigration de l'est de la Méditerranée, c'est-à-dire du Proche-Orient, au début du XXe siècle, à cause d'une grande famine après le déclin de l'Empire ottoman. Donc il y a un arabe syro-libanais qui est parlé en Amérique du Sud, en Amérique centrale, mais aussi en Amérique du Nord. Donc, à Chicago, vous avez une grande chance d'écouter des Irakiens et des Libanais. À Cleveland, Ohio, c'est des Syriens. Donc, il y a beaucoup d'Arabes parlés dans la diaspora. L'immigration dans cette région est millénaire aussi. Donc, on connaît une communauté syrienne qui s'est déplacée en Inde même, dans les premiers siècles après le christianisme. Je ne sais pas si vous connaissez la romancière indienne Arundhati Roy, elle est d'origine syrienne en fait, d'une communauté syrienne millénaire. Voilà, donc c'est... mais il ne faut pas oublier que dans ce monde arabophone, il y a beaucoup de langues minoritaires. Donc il y a le berbère avec ses variations au Maghreb, mais il y a aussi l'arménien, le turkmène, le tchétchène, l'aramien, l'arménien, par exemple, dans le Proche-Orient. Voilà. Maintenant, une devinette. Est-ce que vous pensez qu'il y a une langue sémitique en Europe? Il y en a deux. Oui. Oui, c'est ça, surtout. Bon, c'est tout mignon, tout petit, tout au sud, donc c'est pas très dangereux pour le moment. C'est à Malte, et c'est une variété de l'arabe de Sicile, on dit en français, oui. Et c'est très proche de la variété tunisienne, en fait, de l'arabe. Et c'est une langue sémitique, et c'est la première, c'est une langue extraordinaire, c'est la C'est la seule qui est écrite avec l'écriture latine. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de caractéristiques? Donc, je commence avec l'écriture. Bon, c'est une tradition écrite très, très ancienne, l'écriture arabe. Le premier trait, c'est que ça s'écrit de droite à gauche. Bon, ça, c'est un... Je fais hommage à un grand illustrateur et d'album d'enfants de mon enfance, qui est Labbad. C'est un dessinateur égyptien. Et là, il expliquait justement aux enfants comment ça se fait, le système d'écriture. Et il s'interroge, il pense que Superman passe toujours de gauche à droite dans les albums occidentaux. Et nos chevaliers, nos héros arabes, passent toujours à la scène de droite à gauche. Et à la fin, il se demande si on rêve aussi de droite à gauche. À la fin, ici, il dit, je me demande si on rêve de droite à gauche. Bon, ça peut être une petite difficulté qu'on peut transgresser pour les petits apprenants du français. Parfois, ils confondent le sens. D'autres difficultés du système d'écriture d'arabe, c'est que la forme des lettres change selon la position de la lettre. Donc, ce que j'ai mis en rouge, c'est le mim, le m. Donc, le mim, au début, il n'a pas de queue, c'est-à-dire qu'il est au milieu. C'est un mim au début du mot. Et quand il est au milieu, il a deux bras. À la fin, il a une queue. Donc, ça change selon la position dans le mot. Ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que même historiquement, on a inscrit l'arabe avec ce qu'on appelle abjada ou abjadia. Et dans ce système d'écriture, on ne marquait pas les petites voyelles. Donc les petites voyelles ne sont pas des lettres, mais des petits accents. C'est-à-dire, le mot que j'ai mis ici, c'est kutiba. Donc ce qui est le petite virgule, c'est un petit ou. Le petit accent au-dessous, c'est un petit i. Petit accent au-dessus, c'est un petit a. Donc ce n'est pas des lettres. Et pourquoi ? Parce qu'en arabe aussi, bon, pourquoi, je ne sais pas la cause, mais il faut signaler qu'en arabe, il y a une distinction phonologique entre voyelles courtes et voyelles longues. Donc, on a des paires minimales en arabe pour voyelles longues et voyelles courtes. C'est important. Je vais en parler quand je parle de la phonologie. D'autres difficultés, c'est qu'un seul son peut s'écrire avec différentes formes, comme le « a ». Donc, alif, ta marbouta, alif maqsoura, donc plusieurs formes. Alors, pas de conclusion à tirer en fait, c'est juste qu'un apprenant du français qui était scolarisé dans un pays arabe, je pense qu'il n'a pas de difficulté dans le système écrit français, sauf peut-être s'il a fait sa scolarité avec la nouvelle génération qui s'obstine à ne pas utiliser le cursif. Moi, je fais partie de l'école ancienne où j'écrivais en cursif. Maintenant, les gens sont laxistes, ils écrivent avec des lettres détachées. C'est tout, mais il n'y a pas d'autres difficultés. Bon, qu'est-ce qu'il y a de caractéristique en arabe au niveau phonologique ? On a beaucoup de consonnes. Donc, on a beaucoup de distinctions consonantiques en arabe. Et je pense que vous avez cette représentation mentale sur l'arabe, c'est des sons très virils. Bon, en Moyen Âge, on dirait aussi barbare. Donc en français, on disait que les sons, pendant les croisades, on disait les sons arabes sont barbares. On a beaucoup de « qo »,« do », »,« to », tout ça. Bon, c'est un trait pharyngal des sons. On a une distinction voyelle longue, voyelle courte aussi. Donc, si je dis, par exemple, bon, je vais bouger un petit peu, ça fonctionne, oui. Si je dis en arabe « kataba », c'est-à-dire « il a écrit », et si je dis « kataba », donc imaginez deux notes musicales ici. Donc là, ça c'est dire « il a fait une correspondance avec quelqu'un », donc c'est réciproque. Entre deux sujets, entre deux personnes. Voilà, donc la longueur vocalique a une valeur dans cette langue. On doit signaler que le système vocalique est très pauvre par rapport au français. Donc, on a OU, A, I, et on a aussi le E et le O dans les variantes dialectales, dans l'arabe parlé. Mais tout ce que j'ai listé ici, je pense que les Français exagèrent avec leurs voyelles. Donc, c'est très difficile pour les arabophones, tout ce qui est voyelle nasale, par exemple, ça n'existe pas. Le U et le E, donc tout ce qui est rond, c'est difficile aussi. Et on a des distinctions sonores dans les consonnes qui n'existent pas en arabe. Donc, pe et be, ça peut être difficile. C'est une matière d'anecdotes et de blagues entre les arabophones qui apprennent des langues étrangères. Donc, on peut distinguer quelqu'un qui est très sérieux dans son apprentissage, comment il prononce le peu. On peut avoir même des phénomènes de surcorrection. Donc, il y a des gens qui prononcent le tout P parce qu'ils ont peur aussi de prononcer le peu. J'ai eu cette anecdote, quelqu'un qui laisse sur sa messagerie, laissez votre message après le pip sonore. Donc, c'est une surcorrection sur le P. Mais je dois signaler que la production de certaines consonnes en arabe existe dans ce qu'on appelle la phonologie combinatoire. C'est-à-dire, dans un mot, je peux me surprendre en train de dire peu, parce que la phonologie oblige. Mais quand on dit il n'a pas de valeur phonémique, c'est-à-dire, j'ai pas des paires minimales, ça ne fait pas une ambiguïté. Mais je peux prononcer le peu. Je peux prononcer même le veu dans certaines combinaisons où les sons s'influencent dans un mot arabe. Et je pense qu'il faut rappeler aux apprenants ceci, que vous êtes capable de prononcer ça, parce que ça existe. Quand vous dites ça, vous prononcez le veu. Quand vous dites ça, vous prononcez le peu. Je vais parler maintenant de la morphologie. Donc, le modèle répandu qu'on connaît tous, surtout dans les langues romanes, c'est ce qu'on appelle la morphologie concaténative. C'est-à-dire qu'il y a un sens de la dérivation. Bon, je n'ai pas très rigoureuse si je dis un sens. Mais il y a un attachement des morphèmes qui se fait plutôt sur un sens. C'est-à-dire, j'ai un radical qui est écrit, ok. Et remarquez que c'est syllabique. J'ai des voyelles et j'ai des consonnes dans ce radical. Et puis, je dérive d'autres mots par suffixation, parfois par préfixation aussi. Donc, je peux dériver écriture, écrivain, écritoire et tout. Le modèle de l'arabe est différent. Et des langues sémitiques, bien sûr, pas seulement l'arabe, l'hébreu aussi. Alors, comment ça se passe? Le porteur du sens dans les mots arabes, le porteur de sens, c'est-à-dire ce qui désigne tout le champ lexical, est porté par les consonnes, par trois consonnes. C'est-à-dire, toute l'idée de l'écriture, c'est-à-dire écrivain, correspondance, librairie, bibliothèque, écritoire, bureau, livre, cahier, tout ça, je dois avoir dans ces mots trois consonnes. Que, te, be. Donc, bon, on s'est ennuyé avec que, te, be, parce que dans toute la littérature sémitique, on pose c'est le plus simple, c'est pour cela qu'on l'utilise tout le temps. Donc, l'idée de l'écriture est portée par ces trois consonnes. Après, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je simplifie, c'est pas tout à fait exact, mais je simplifie les choses. On met cette racine dans un moule qui est mélodique, qu'on appelle gabarit ou shem. Dans les littératures sémitiques, on l'appelle aussi binyan. Un moule où on met les consonnes. Et pour chaque moule, il y a une signification grammaticale. C'est-à-dire, quand j'ai consonne A, consonne A, consonne A, c'est-à-dire j'ai la valeur grammaticale de du passé, si je simplifie aussi, okay, du verbe au passé. Et j'obtiens kataba. Je ne sais pas si c'est clair. Bon. Et on obtient un grand répertoire de lexèmes ou de mots à partir de cette opération. Même la morphologie la plus flexionnelle, la plus grammaticale, qui n'est pas dérivationnelle, qui n'est pas pour dériver des nouveaux sens lexicaux, même ça, il peut passer par cette stratégie. C'est-à-dire, je peux faire le pluriel de kitab en changeant le mot à kutub. Donc, je change la mélodie vocalique à l'intérieur du mot et j'obtiens le pluriel. La stratégie suffixale pour le pluriel existe en arabe, mais elle n'est pas unique. Plus le mot est arabisé, plus on opte pour cette stratégie. C'est-à-dire tous les mots empruntés de l'étranger, quand on veut vraiment les arabiser, on en fait ce type de pluriel interne. Bon, les Libanais, pour faire le pluriel de film, ils disent floum, film de cinéma. Ils font floum. Floum, c'est-à-dire ils ont changé l'intérieur du mot pour dériver un pluriel comme ça qu'on appelle en grammaire pluriel brisé. Bon, c'est une stratégie qui n'existe pas beaucoup, mais il y a des phénomènes minoritaires dans les langues où on trouve la même stratégie, c'est-à-dire on change l'intérieur du mot pour dériver une valeur grammaticale, ce qu'on trouve en anglais, c'est-à-dire go went, ou c'est-à-dire pour dériver le passé du go, ou par exemple pour dériver le pluriel de mouse, on change le mot en mice. Donc c'est pas tout à fait exotique, mais très minoritaire. Et ça, c'est très systématique en arabe. Le résultat, un lexique énorme. Un lexique énorme. Bon, désolé pour tous ces smileys et tout, mais quand on présente l'arabe, il faut exagérer les valeurs philanthropiques. Même si c'est kitsch un peu. Donc, voilà. Donc, on a une centaine de mots pour désigner l'amour en arabe. Pour désigner l'amour. L'amour. Du plus platonique au plus charnel. Bon, voilà. Je vais parler de ce que les Algériens, et pourquoi c'est intéressant et pertinent ici. C'est que les Algériens, je ne sais pas si vous avez remarqué comment les Algériens font avec la morphologie, c'est tellement souple entre leurs mains qu'ils font des radicaux français avec la morphologie arabe. Et ils font des choses de type craseto, crasena, donc écraser, le radical écrasé, avec le paradigme verbal. Ce qui est très intéressant dans ce phénomène, c'est qu'ils négligent complètement le « et » dans écraser. Donc, c'est très intériorisé que la racine, c'est triconsonantique. Et moi, je trouve ça pertinent parce qu'on trouve ça, je l'ai observé avec mes propres enfants qui sont des élèves des classes d'accueil, ils font en fait ça en français, c'est-à-dire pour eux condamner, surtout à l'écrit, donc condamner ou commander, je ne sais pas si c'est lapsus psychologique, mais c'est plutôt la même chose, parce qu'il y a ce « me » de, donc ils ont l'impression que c'est la même chose. Donc la racine, c'est une réalité cognitive, c'est les Arabes au fond, c'est ce que je veux dire. Et voilà, donc je vous ai parlé d'un lexique énorme. Il faut savoir que ce lexique n'est maîtrisé par aucun locuteur. C'est énorme dans un sens très rigoureux de termes énormes, donc des milliers de termes, parce qu'on dénombre 6 000 combinaisons triconsonantiques. Avec ces 1 000, on peut avoir beaucoup, beaucoup de mots. Donc c'est ouais. Le problème de l'arabe, c'est aussi qu'on fait jamais c'est-à-dire on démontre jamais la réalité que ce lexique, il y a une partie qui est archaïque, il y a une partie qui est pré-islamique, il y a une partie qui est islamique mais qui a disparu. Donc pour les arabophones, ça c'est un problème idéologique et politique. Un arabophone doit maîtriser tout le lexique. Même la poésie pré-islamique, que moi, je ne comprends absolument pas. Donc, il y a des termes que je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a de caractéristique dans les... Qu'est-ce qui existe en arabe comme catégorie atypique et qu'est-ce qui n'existe pas? Et ça ne veut pas dire nécessairement que l'apprenant du français, qui n'a pas l'adverbe de manière, par exemple, va avoir des difficultés à l'apprendre. Pas nécessairement, mais bon, c'est un fait, quelque chose de factuel qu'on présente. Bon, il existe des choses qui n'existent pas dans d'autres langues, comme dans la catégorie du nombre, on a le duel en arabe. Bon, le duel, c'est quoi? C'est-à-dire, on a mentalement trois catégories d'ensemble. On a quand il y a un individu, et on a quelque chose quand il y a deux individus, et au-delà de deux, on considère que l'ensemble, ça s'approche du pluriel. Et ça existe dans le système verbal. C'est-à-dire quand on conjugue un verbe, on conjugue première personne, deuxième personne et tout, mais avec le nombre qui va avec la deuxième personne et la troisième personne en duel. C'est-à-dire vous deux, c'est différent de vous pluriel. Bon, bonne nouvelle, ça a disparu dans l'arabe actuel. Mais on se fait taper sur les doigts si en dissertation à l'école, on ne fait pas le duel. Ça, c'est une situation diglossique qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais il existe toujours dans le système nominal. C'est-à-dire, même dans l'arabe dialectal actuel, on a un marqueur de deux sur les noms. C'est-à-dire, quand je dis trois maisons, je dis trois maisons. Mais quand je dis deux maisons, je dis maison avec un suffixe qui désigne le deux. Donc le duel existe dans le système nominal, toujours. Et ça, c'est une catégorie qui n'est pas très répandue dans les langues parce que apparemment c'est coûteux mentalement. C'est pour cela que ça a disparu dans les langues modernes de l'arabe. Donc je mets l'exemple. Voilà. Donc, par exemple, tlit biut, c'est-à-dire trois maisons. Mais quand je dis deux maisons, je dis b ten. Donc c'est un marqueur de duel qui est suffixal. Voilà. Le genre nominal comme classificateur, ce que Anne a évoqué ce matin, existe en arabe. Ça existe en arabe, mais ça pose un grand problème pour les apprenants du français. Vous voyez, donc c'est pas systématique. Quand la catégorie existe, ça ne pose pas de problème. Quand ça n'existe pas, ça ne pose pas de problème. Le genre pose un problème parce que le genre qui n'est pas lié à une entité sexuée, c'est arbitraire. Et l'arbitraire ne coïncide pas entre le français et l'arabe. Donc, lune en arabe, c'est masculin. En français, c'est féminin. Soleil en arabe, c'est féminin. En français, c'est masculin. Donc, il n'y a pas de... l'arbitraire complet. Le genre verbal existe en arabe, qui n'existe pas en... Non, en français, existe pour la troisième personne. Non, ça n'existe pas pour la troisième personne en français. Pardon, je suis influencée par le « il »,« elle » dans les tableaux de conjugaison. En arabe, ça existe pour la deuxième et la troisième personne. Donc, « tu » féminin, ça diffère de « tu » masculin. « Il » féminin diffère de « elle ».« Il », pardon, troisième personne, diffère de « elle ». Qu'est-ce qui n'existe pas en arabe? Alors, il y a des catégories en français ou dans d'autres langues qui n'existent pas en arabe, comme l'infinitif. Donc, c'est une catégorie très complexe en arabe. Donc, pour dire « j'aime danser » en arabe, on va dire « ou bien j'aime la danse », donc on utilise un nom d'action, ou bien on va dire « j'aime que je danse ». Donc, on a une forme fléchie, une forme conjuguée. Pas complètement, donc il lui manque un bout de temps ou d'aspect, mais la personne et le nombre est là. Donc je dis je veux que je danse ou j'aime que je danse. C'est ça l'infinitif en arabe. Voilà, ça peut-être, ça peut poser un problème, je ne suis pas sûre. L'adverbe de manière morphologiquement marquée n'existe pas en arabe. Bon, ma table n'est pas exhaustive, je n'ai pas le temps d'exposer tout. Mais ça ne pose absolument pas de problème, à mon avis, l'adverbe de manière en français. Le « ment », lentement et rapidement et tout ça, d'après mon observation. Alors, comment on exprime l'adverbe de manière en arabe? Ou bien avec un groupe prépositionnel. Donc, je danse une danse rapide. Je danse avec rapidité. Ou bien, je danse une danse rapide. Donc, on appelle ça cognate object, c'est-à-dire un objet qui est lié au verbe morphologiquement, et je lui ajoute un adjectif. Quelques éléments de grammaire. Bon, on a ce qu'on appelle en arabe, dans la tradition grammaticale arabe, la phrase nominale. Phrase nominale, c'est-à-dire phrase à copule, comme une phrase avec verbe être, mais sans être. Donc, je n'ai pas le verbe être. Donc, Anne en a parlé ce matin aussi. Donc, pour dire Selma est malade, je veux dire Selma morida. Mais ce n'est pas le cas pour le passé. Donc, dès que je passe au passé, j'ajoute un copule, j'ajoute un verbe être conjugué au passé. Bon, les choses ne sont pas très très simples, mais on a tendance la phrase nominale sans copule existe en arabe. L'indéfini, donc je vais parler un peu du groupe nominal. Donc en arabe, on n'a pas la catégorie morphologique indéfinie, c'est-à-dire on a le sens de l'indéfini, mais il n'est pas marqué morphologiquement, c'est-à-dire le marquage de l'indéfini, c'est le non-marquage, on n'a rien, on n'a nul élément. Donc j'ai vu homme qui dorme ou dormant dans la rue, donc homme, j'ai rien avant. Donc ce qui est marqué dans les déterminants, c'est le défini seulement, on a rien. Alors, le groupe nominal en arabe, c'est une casse-tête en fait, c'est une liberté totale. On a n'importe quoi dans le groupe nominal. On peut avoir tout. Bon, il y a des combinaisons qui ne sont pas permises, mais par exemple, la combinaison démonstratif et déterminant défini existe en arabe. Ce, le livre, donc, ce qui n'existe pas en français. Bon, en A, par exemple, l'oulad, les enfants. En B, j'ai pas signalé que mes exemples ici sont de l'arabe syrien. Tout simplement parce que je suis syrienne, mais bon, je peux vous donner les équivalents dans d'autres variantes aussi. Hadol l'oulad l'etlate, donc c'est les enfants les trois, c'est-à-dire ces trois enfants. C'est les trois enfants, c'est-à-dire ces trois enfants aussi. Donc on n'a pas vraiment une distinction sémantique. L'oulad, l'etlat et hadol, donc ces trois enfants aussi. Mais là, j'ai la combinaison les enfants, les trois, c'est. J'ignore si à l'intérieur du groupe nominal, on peut focaliser des éléments, mais le sens, c'est à peu près la même chose. Je peux avoir des choses comme « qu'il ou l'ad, tous les enfants ». Je peux avoir « l'oulad qu'il l'on » avec un accord sur tout, c'est-à-dire « les enfants tous ». Et je peux avoir des choses comme c'est les enfants, les beaux, tous. Voilà. Bon, le dernier exemple H, je vais en parler en détail, c'est comment on lit deux noms à l'intérieur d'un groupe nominal. Donc, en arabe, on n'a pas besoin de préposition. Donc, on met c'est-à-dire directement le deuxième nom en défini. Mais je vais détailler ça après dans un tableau à part. Je vais parler de la possession parce que ça pose, pour un apprenant arabophone du français, ça peut lui poser un problème, la possession. Ce qui est caractéristique en arabe, c'est que l'accord se fait dans la possession, se fait avec le possesseur, un peu comme en anglais. Donc c'est l'opposé du modèle français où on fait l'accord avec le possessum, ou ce qui est possédé. Donc, ma maison à moi, je mets maison, moi, donc une sorte d'accord sur le nom, maison à lui, et maison à nous, maison à elle, sur le même nom. Je mets l'accord sur le nom. Bon, je dis l'accord, mais c'est presque un pronom, en fait. Bon, là, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que on appelle ça l'état de connexion en arabe, c'est la juxtaposition de deux noms sans préposition. Ce qui est caractéristique, c'est l'absence de la préposition, mais aussi l'absence de déterminant dans le premier nom. C'est-à-dire le déterminant ou la définitude se fait sur le deuxième nom. Et ça donne la définitude à tout le complexe. Voilà. Les relatives, je pense que c'est un des problèmes pour les apprenants arabophones du français, les relatives. Et moi, j'ai eu beaucoup d'amis réfugiés syriens qui m'ont appelé pour me dire, mais à quoi bon ce don en français? On ne comprend pas qu'est-ce que fait don. Don est très difficile. Bon, alors, une des difficultés, c'est qu'en arabe, le pronom relatif est unique. C'est-à-dire, on a un seul marqueur du pronom relatif, c'est alladhi en arabe standard ou yelli en arabe syrien, et qui est morphologiquement très proche du déterminant en fait. Voilà. Alors, comment on fait les relatives? On relativise le groupe nominal, mais on le pronominalise aussi dans la subordonnée, c'est-à-dire l'enfant que est passé ici, avec le sujet, ça ne montre pas le point que je veux démontrer. Mais regardez, par exemple, l'exemple B. L'enfant que j'ai vu, lui. C'est-à-dire, je marque ce que je relativisais en un pronom qui est O ici. Pareil en C. Donc l'enfant avec qui j'ai parlé, en mot à mot, je vais dire l'enfant que j'ai parlé avec lui. Donc c'est un prototype d'un pronom relatif que j'ai mis en que et avec qui on va pronominaliser l'élément relativisé. Est-ce que j'étais claire pour les relatives? Bon, un grand problème, il y a beaucoup de points à montrer dans la grammaire arabe, mais on n'a pas beaucoup le temps de le faire. Je vais parler, parce que c'est pertinent dans le contexte dans lequel on est là, de la variation de l'arabe. Donc, on a la situation de la diglossie dont Anne a parlé ce matin, mais c'est beaucoup plus complexe encore en arabe. C'est-à-dire que c'est politique, c'est idéologique et c'est affectif aussi. Donc, il n'est pas entré. Donc, le mot diglossie n'apparaît pas dans le langage commun. Donc, pour nous, nous sommes arabophones et on doit parler l'arabe littéraire. Et ce qu'on parle tous les jours, ce n'est pas l'arabe. Donc, c'est quelque chose qui est très méprisé, politiquement. Voilà. Et acquérir, maîtriser la langue littéraire classique, surtout à l'écrit, c'est un pouvoir symbolique, c'est un capital symbolique. Et si on veut humilier, par exemple, un politicien ou une personne des médias, on va dire qu'il ne sait même pas écrire en arabe. Donc si on met le nominatif au lieu de... Si on met un marquage de nominatif au lieu de l'accusatif en arabe écrit, c'est catastrophique, on est grillé à jamais. Pourtant, le nominatif et l'accusatif n'existent plus dans les dialectes arabes. Mais c'est comme ça. L'arabe dialectal n'est pas écrite, sauf dans des expériences très marginales de la poésie populaire, en Égypte et au Liban. Surtout, les Libanais sont pionniers dans la valorisation de leur dialecte. Mais, par ailleurs, ce n'est pas écrit. Voilà, donc j'ai parlé des quatre macro-variétés, donc du Golfe, de l'Égypte, du Levant et du Maghreb. Mais il faut aussi penser que dans chaque pays, il y a une richesse de micro-variations énorme en arabe. Je vous ai donné un petit exemple du paradigme verbal en arabe, donc la conjugaison d'un verbe en personne et en nombre, avec l'accord du personne et nombre, entre Damas et Raqqa, la capitale de Daesh maintenant. Donc, il joue Raqqa, la ville. Raqqa, c'est tout. Bon, alors, il joue en Damasin. Damasen ou Damasin, on dit, je ne sais pas. Oui, alors, il joue ces îles où elles sont venues. Donc, nous, on a perdu, pour le pluriel féminin, on a perdu ce marquage féminin pluriel en arabe dialectal actuel, à Damas. Eux, ils n'ont pas perdu ça. Donc, eux, ils distinguent Jaou, ils sont venus, et Jen, c'est-à-dire elles sont venues, les femmes. Et là, c'est un exemple minime de cette richesse. Donc, c'est très, très, très varié, en fait, le système temporel aussi, qui peut changer de marquage. Bon, on a des représentations par rapport à cette variation. Donc, on dit les locuteurs des dialectes respectifs ne se comprennent pas. Oui, partiellement vrai, mais pas tout à fait. C'est-à-dire, à cause de cette situation de diglossie et de la charge idéologique et affective de l'arabe littéraire, la scolarisation massive dans certains pays aussi, tout ça fait en sorte que on a toujours des tuyaux pour se faire comprendre par un autre locuteur de l'arabe. On essaye d'opter pour un arabe neutre, voilà. Donc on superpose du lexique arabe standard avec le lexique dialectal et aussi certains très grammaticaux. Mais en général, c'est le cas. C'est-à-dire, même moi, qui me considère très musclé comme linguiste et très têtu, j'ai du mal à comprendre certains Marocains parce qu'ils parlent super vite, donc ils ont des traits phonologiques très caractéristiques à eux. Ils avalent les voyelles, par exemple, donc ils n'ont presque plus de voyelles. Ils font du R un noyau syllabique tellement il n'y a plus de voyelles. Donc, on comprend très difficilement les dialectes. La médiation des médias égyptiens a fait en sorte qu'on se comprend à travers ce dialecte aussi. C'est-à-dire c'est une tradition de cinéma et de feuilleton, donc où on peut se comprendre à travers cela. Il n'y a pas de dialecte qui est plus proche de l'arabe standard. Ça, c'est absolument faux. Et les orientaux de France, les orientaux qui sont responsables de l'institution de l'arabe en France, font comprendre cela, mais ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, en fait, il y a certains aspects qui sont plus préservés de l'arabe au Maghreb. Donc, quelles sont les différences entre les dialectes arabes ? Donc, il y a des différences phonologiques, lexicales, parfois morphologiques. Ça peut être étonnant, mais si. Et les différences syntaxiques. Bon, alors, beaucoup de variations de phonèmes. Le « qo », par exemple, il est neutralisé dans beaucoup de pays. C'est prononcé un coup de glotte, c'est prononcé « e ». Et ça peut être une variation sociolinguistique aussi. Donc, le « qo », c'est très rural, très viril, voilà. Et le « e », c'est plus féminin, plus citadine, plus féminin. Mais au Maghreb, on prononce le « qo ». Plutôt, par exemple, que le coup de glotte. Le do, c'est-à-dire ce dé pharyngal, en fait, pour les Maghrébins, c'est zo. Pour eux, c'est la même chose. Nous, on fait la différence entre ça et ça, entre zo et do. Et il y a la prosodie, la structuration syllabique. Les voyelles sont plus brèves au Maghreb. Ça, c'est une réalité. C'est peut-être une influence berbère, parce que le berbère, c'est une langue où il y a très peu de voyelles dans les syllabes, et où le re, comme je viens de dire, le re, c'est comment on l'appelle phonologiquement le re? J'ai oublié la carte. Un phonème liquide, voilà, peut faire un noyau d'une syllabe. Le stress syllabique, ça peut être un problème pour un apprenant syrien du français. Stress. C'est-à-dire, oui, au Maghreb, il n'y a pas de ce problème parce qu'eux, ils accentuent la dernière syllabe comme les Français. Au Mashrek, au Levant, on a tendance à stresser l'avant-dernière syllabe. C'est-à-dire, les Syriens, moi, je peux tout à fait repérer un Syrien qui dit... je suis allée à la mairie au lieu de dire la mairie. Donc, ils accentuent l'avant-dernière voyelle, toujours. Donc, il y a cette différence syllabique. Bon, les différences lexicales. Donc, on a, alors, comme je viens de dire, le lexique arabe est énorme. Et chaque partie de ces variétés ont pris une partie. Donc, on n'a pas pris tout l'arabe. Avec leur substrat à eux, c'est-à-dire en Syrie, en Irak, au Liban et tout ça, on a un substrat syriaque très important, et on a une influence turque aussi qui est très importante. Au Maghreb, ils ont un substrat berbère, ils n'ont pas eu une grande influence ottomane turque aussi, c'est très important. Et ça, c'est un fait historique, donc ils ont pu préserver des recettes culinaires du Moyen-Âge, des livres des califes. Le bastila, c'est une recette royale des califes que nous, on a oubliée. On est devenu un peu pétard à cause de l'Empire ottoman, mais aussi dans le lexique. C'est-à-dire, nous, on a une influence persane, turque et tout, et eux, ils ont juste le substrat berbère. Donc, ça influence ces différences lexicales entre les variétés. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, alors j'ai donné l'exemple botanique, parce que nous, botaniquement parlant, on est influencé par les Grecs aussi, et les Turcs, et eux, ils ont préservé la terminologie arabe. Voilà, donc je ne vais pas me répéter par rapport à ce point. Oui, juste un savoir-faire. Ne dites jamais un tic l'afi en marocain. L'afi en arabe, c'est la bonne santé. Donc, que Dieu te donne la bonne santé. Mais pour les Marocains, l'afi, c'est le feu. Donc, c'est comme si je lui donne une prière de que Dieu te brûle. L'aspect métaphorique a joué aussi dans la variation lexicale. C'est-à-dire, parfois, on a utilisé une métaphore qui est devenue un lexème premier dans une langue, comme le cas de l'afia, par exemple. Parce que feu, c'est saint, c'est un élément saint dans la tradition arabe, et c'est devenu un lexème dans le lexique. Voilà, ça, c'est l'illustration de l'influence des substrats sur le lexique arabe. Alors, est-ce qu'il y a des différences morphologiques entre les langues? Bon, alors, il y a ce fameux paradigme verbal qui est très... C'est une casse-tête entre les langues, de l'Irak jusqu'au Maroc. Je donne un exemple. Les Tunisiens, en deuxième personne, ils ne font pas la distinction féminin-masculin. Mais seulement au présent, c'est-à-dire quand ils passent au passé, ils refont à présent la distinction féminin-masculin. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres variantes de l'arabe. Pour la morphologie dérivationnelle, on a observé, surtout en Orient, on a des schèmes de dérivation qui sont très influencés par le syriaque. Donc on a beaucoup de manières de faire les noms d'action, par exemple. C'est-à-dire des mélodies pour dériver un nom d'action peut être très très riche dans certains pays arabes. C'est une différence morphologique. Bon, quelles sont les différences syntaxiques? C'est énorme, donc je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vais donner quelques petits exemples de différences syntaxiques. J'ai donné un exemple qui m'est très cher parce que j'ai travaillé beaucoup d'années sur ça, le datif réfléchi. Quand je dis en français « je me suis mangé un sandwich », ce mot-là existe dans certains pays, mais il n'est absolument pas présent dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays où le datif s'est préservé pour les doubles objets. Je lui ai donné un livre et pas autre chose. L'expression de temps aussi, c'est très complexe entre les variations arabes et c'est très différent aussi. Qu'est-ce que je peux donner? Les relatives aussi peuvent être très différentes entre les variations arabes. Choukran.